La carte Visa Orange Monnaie Côte d'Ivoire, valable partout dans la zone UMOA, vous propose l'émission Appel sur l'actualité. Appelez-nous, exprimez-vous.
33 9 693 693 70.
Anne Cantner.
Bonjour à tous et bienvenue, merci d'être avec nous. Pendant une heure, RFI vous donne la parole. Dans la seconde partie de l'émission, nous lancerons le débat sur le retour d'Ali Bongo à Libreville. Sa présence suffira-t-elle à faire taire les polémiques sur son état de santé et sur sa capacité à diriger le Gabon? Nous attendons vos appels, vos avis. Un numéro pour participer, le 33 9 693 693 70. Vous pouvez aussi nous laisser des messages sur WhatsApp au 33 6 89 28 53 64. En attendant de lancer le débat, nous répondons à vos questions sur l'actualité. On commence avec le Mali. Nous en avons déjà parlé hier dans l'émission, mais nous avons reçu beaucoup de questions sur le massacre commis contre des Peuls dans le centre du pays samedi. Bonjour Mamadou.
Bonjour madame.
Quelle est votre question?
Bonjour madame et merci de m'avoir reçu sur votre antenne. Samedi dernier, la plus sanglante ou meurtrière attaque depuis 2012 a eu lieu contre la communauté Peul au Mali. Et au moins 150 personnes ont trouvé la mort maintenant, si je ne me trompe pas. Mes questions sont les suivantes. Une, pourquoi ce sont des Peuls qui ont visé? Deux, quel était le mesure annoncée par l'État malien afin de protéger l'ethnie Peul après les attaques précédentes, comme celle qui a eu lieu dans le village de Koulogon en janvier dernier?
Oui, alors effectivement, comme vous le dites, l'attaque de samedi dernier n'était pas la première. Le dernier bilan dont on dispose pour l'attaque qui s'est produite samedi dernier, c'est même 160 morts. Pour vous répondre, Mamadou, nous sommes en ligne avec notre correspondante à Bamako. Bonjour Coralie Pierret.
Bonjour.
Alors, pourquoi les Peuls sont-ils visés?
Alors, au Gossagou, le village où a eu lieu le massacre, c'est effectivement un village Peul dans une région habitée à la fois par des Peuls et par des Dogons. Au Gossagou, c'est dans le cercle de Bankass, et même dans cette zone, vous l'avez rappelé, c'est pas la première fois qu'un village Peul est attaqué. En fait, pour répondre à la question de Mamadou, pourquoi les Peuls sont visés, il faut replacer cette question dans son contexte. Cette zone est une zone avec de nombreuses forces en présence. On a les villageois dont j'ai parlé, on a aussi conséquence de la dégradation sécuritaire des groupes d'autodéfense communautaires, le plus souvent armés, qui sont nés. On a des chasseurs qui sont dans la zone depuis longtemps. Certains ont adhéré au mouvement d'Anar Obasagou, mais d'autres sont en dehors de ce mouvement. Et puis, on a aussi des groupes d'autodéfense Peul qui sont moins identifiés et identifiables parce que ça fonctionne surtout village par village et de manière assez sporadique. Et puis, on a bien sûr des groupes qui se réclament du djihad. Ces groupes seraient liés de près ou de loin à Amadou Koufa, un prédicateur Peul qui sévit dans la région. Et cette information, en fait, explique cette spirale de la violence.
Et parce que depuis l'apparition du groupe d'Amadou Koufa en 2015, qui a beaucoup recruté dans sa communauté, la communauté Peul, eh bien certains font l'amalgame, Coralie, entre djihadistes et Peul.
Très clairement, quand on interroge la milice des chasseurs d'Anar Obasagou, ils répondent qu'ils se sont organisés pour défendre les Dogons, leur communauté, contre les djihadistes. Et cet amalgame explique les attaques contre les villages Peul.
Alors Mamadou s'interrogeait aussi sur les mesures prises par le gouvernement. Est-ce qu'il existe des dispositions particulières pour protéger ces populations?
Alors, l'État n'a pas pris de mesures particulières pour défendre les Peuls. L'État ne prend pas des mesures pour protéger une seule communauté, mais pour sécuriser normalement toutes les populations civiles dans le centre. Le gouvernement a notamment lancé un plan de sécurisation intégré des régions centres pour redéployer ses hommes et puis pour agir dans cette zone. Mais c'est vrai que son absence est pointé du doigt après le massacre de Ogossagou. Parce qu'il faut bien comprendre que se joue dans le centre un conflit intercommunautaire. Côté Dogon, il y a aussi des victimes, il y a aussi des morts. Par exemple, à Diankem, dans le cercle de Koro, un cadavre piégé a explosé fin février et a fait 17 morts. Les victimes étaient des Dogons. Il y a donc toutes ces forces en présence dont j'ai parlé plus tôt. Il n'y a pas d'un côté les bons et puis de l'autre les mauvais.
Une situation donc assez à nuancer en tout cas. Merci Mamadou de nous avoir appelé. Coralie, vous restez avec nous. Notre deuxième auditeur ce matin s'interroge aussi sur ces événements. Bonjour Magba.
Bonjour madame.
Vous nous appelez de Dakar, on vous écoute.
Oui, je vous appelle de Dakar, je m'appelle Amadba et puis je suis vraiment inquiet, je suis peur et je vois pourquoi l'État malien a pris l'initiative de dissoudre le groupe Dana Ama Sagou. Et ma deuxième question, c'est comment ont-ils pu se procurer de ces armes de guerre et qu'est-ce qui les rallie dans ce pourquoi l'État malien qu'est-ce qui les rallie dans ce massacre? Et ensuite, comment le groupe a pu se procurer de ces armes? C'est ce que je voulais savoir.
Alors, merci, on va essayer de répondre. On va essayer de répondre à vos questions dans l'ordre, Magba. D'abord, pourquoi dissoudre cette milice? C'était l'une des décisions marquantes prises dimanche par les autorités, en plus de remplacer une partie de la hiérarchie militaire. Le président a donc dissous la milice d'Anna Ambassagou, qui a démenti être responsable de l'attaque. Alors pourquoi dissoudre ce groupe, Coralie Pierret?
Oui, effectivement, la milice a été pointée du doigt. Elle est accusée notamment par une association Peul, par Tabital Poulakou, et ce, quasiment quelques heures après le massacre. Alors, cette milice se défend d'avoir perpétré ce massacre. C'était peut-être des chasseurs, nous ne savons pas, mais pas ceux de Dana Ambassagou, témoignait le président de la coordination nationale de ce groupe. Selon Tabital, en fait, les assaillants portaient des tenues de chasseurs traditionnels. Mais aujourd'hui, à l'heure où nous parlons, l'enquête reste ouverte. Il n'y a pas de preuve formelle et publique que cette milice soit la responsable. L'État a dissous cette association parce que, dit le compte-rendu du Conseil des ministres extraordinaire de dimanche, parce que cette milice s'est éloignée de ses objectifs initiaux. C'est la justification officielle. Mais il est vrai que la dissolution de cette milice la pointe encore plus du doigt. Mais encore une fois, l'enquête est ouverte.
Cette milice est pointée du doigt, mais en fait, d'autres thèses circulent, Coralie.
Oui, ça pourrait être, selon certains, d'autres groupes armés qui auraient perpétré cette attaque ou même instrumentalisé cette attaque. Là encore, pas de preuves pour le moment. Ce qui alimente ces thèses, en fait, c'est la présence d'anciens djihadistes, des repentis, regroupés dans une base de ce village de Ogossagou. Ces anciens djihadistes étaient sur ce camp de pré-entraînement et espérait pouvoir intégrer le processus de désarmement du centre amorcé par le gouvernement malien en janvier.
Alors Magba, notre auditeur, avait une autre question. Il s'interrogeait sur la manière dont les assaillants avaient pu se procurer des armes. Selon certains témoignages, ils étaient armés de fusils automatiques. Certains parlent aussi de grenades. Coralie, comment ont-ils pu obtenir des armes?
Oui, alors pour le moment, avec certitude, on ne sait pas quel type d'arme a été utilisé. En tout cas, sur les photos, il est vrai qu'on aperçoit des enfants tués par balles, mais on ne sait pas pour le moment quel type d'arme avec précision a été utilisé. Ce qui est sûr, c'est que les armes dans la région circulent, et circulent largement. Le groupe Dana Ambassagou reconnaît être équipé, bien sûr, de fusils de chasse, puisque ce sont des chasseurs, mais aussi de quelques kalachnikovs qu'ils ont récupérés sur l'ennemi, disent-ils. Et puis il y a aussi les groupes djihadistes qui sont, eux, très clairement équipés en armes de guerre. Et puis le nord du Mali n'est pas très loin, donc ça contribue aussi à la circulation des armes.
Merci beaucoup Coralie Pierret d'avoir répondu aux questions de nos auditeurs Magba et Mamadou. On vous souhaite une très bonne journée à tous les trois. N'hésitez pas à nous appeler, à nous écrire si vous aussi vous avez des questions sur l'actualité. Facebook, Twitter et WhatsApp au 33 6 89 28 53 64. Même chose si vous voulez participer au débat. Tout à l'heure, nous parlerons du Gabon. Maintenant, Kali Bongo est rentré à Libreville. La polémique sur une potentielle vacance du pouvoir est-elle éteinte? Eh bien, les avis sont très partagés, hein. l'instant, pour l'instant, à en croire les commentaires que vous nous laissez sur les réseaux sociaux. Certains d'entre vous ne sont clairement pas convaincus et attendent un examen médical pour s'assurer de la capacité d'Ali Bongo à diriger le pays. Vos avis nous intéressent. Appelez-nous, écrivez-nous. Il n'est pas trop tard pour participer au débat. En attendant, ce sont donc vos questions à la rédaction. La suite avec Mohamed. Bonjour.
Bonjour, madame.
On vous écoute.
Et voilà, moi, ma question est celle de savoir, suite au crash de deux avions Boeing 737 MAX, dont le dernier a eu lieu le 10 mars, la FAA, l'autorité de l'aviation civile américaine, est mise en cause. Pourquoi ?
Alors, Bruno Faure, journaliste au service économie, est en studio pour vous répondre. Bonjour.
Bonjour Anne et bonjour à Mohamed.
Les enquêtes ont mis en cause un système de stabilisation de l'avion avec donc des conséquences pour la FAA, l'autorité fédérale de l'aviation américaine. Ses représentants seront même auditionnés demain au Sénat à Washington. Pourquoi est-ce que la FAA est mise en cause ?
Alors, il faut peut-être d'abord expliquer ce qu'est exactement cet organisme, la FAA. C'est une agence qui dépend du gouvernement américain, du ministère des Transports. Elle est chargée des règlements, des contrôles de l'aviation civile aux États-Unis. Elle peut, par exemple, bloquer le trafic. C'est ce qu'elle a fait après les attaques du 11 septembre 2001. Et elle est chargée, en l'occurrence, dans cette affaire Boeing, de vérifier que les appareils qui sont vendus à des compagnies aériennes présentent bien toutes les garanties de sécurité. Et c'est ce qu'elle a fait il y a tout juste 2 ans avec le 737 MAX 8. Après plusieurs mois d'essais en vol, il y a eu aussi des tests au sol et en laboratoire. A priori, tout allait bien donc. Les commandes se multipliaient pour cet avion qui était qualifié d'ultra moderne. Boeing avait misé très très gros sur cet appareil.
Mais aujourd'hui, après 2 accidents en moins de 6 mois, en Indonésie en octobre avec la compagnie Lyonnaire, et puis en mars dernier, donc le crash d'Ethiopian Airlines, 2 accidents qui ont fait quand même 346 victimes, eh bien on commence à se poser des questions sur le rôle de cette autorité de l'aviation américaine.
Ouais, ouais. Comment est-ce qu'elle a pu décider ainsi que toutes les pièces du Boeing 737 MAX étaient vraiment sûres, y compris le fameux système anti-décrochage, celui qui assure la stabilisation des appareils. C'est ce système qui est mis en cause dans les accidents de Lion Air et d'Ethiopian Airlines. Ça, c'est l'enquête qu'il dira. En attendant, il y a des doutes sur le fonctionnement, sur les procédures qui ont permis de mettre cet appareil dans les airs. On a appris ces derniers jours qu'il y avait des liens très étroit entre la FAA et Boeing. La FAA qui, à cause d'un manque de budget, à cause aussi de personnel supposé pas assez compétent, aurait même sous-traité à Boeing certaines de ses activités de certification. Boeing aurait effectué lui-même certains contrôles, en étant donc d'une certaine manière à la fois juge et partie. Une enquête est en cours sur ce point précis. Les débats qui auront lieu demain au Sénat à Washington vont sûrement être très instructifs. Ce qui est sûr, c'est que ça va sûrement prendre du temps pour y voir clair.
Alors on imagine qu'après tout cela, il va y avoir des changements. Bruno, quel sera désormais le rôle de la FAA ?
Elle va étudier les correctifs, les modifications promises par Boeing sur son modèle 737 MAX. Elles vont être présentées demain dans l'état de Washington, près du siège de Boeing, à des pilotes, à des compagnies aériennes et à cette agence fédérale qui a désormais un nouveau chef. Il a été nommé il y a quelques jours par Donald Trump. Il s'appelle Steven Dixon. C'est un ancien pilote de chasse. Il était à la retraite, mais il a repris du service vu la gravité de la situation.
Et on imagine bien qu'effectivement, il va y avoir beaucoup de travail à mener au sein de cette institution. Merci beaucoup Bruno Faure. Mohamed, on espère avoir répondu à vos questions. Passez une excellente journée à Conakry. La dernière question de la matinée nous vient de Banjul en Gambie. Bonjour Lamine.
Bonjour Anne.
De quoi vouliez-vous nous parler ?
Je voudrais vous parler d'un premier guide touristique portant sur la Corée du Nord qui venait de paraître.
Alors on vous écoute. Vous aviez des questions à propos de ce guide ?
Oui. Maintenant, je voulais savoir quel est l'intérêt du petit futé à réaliser ce livre et comment les auteurs ont pu l'élaborer, sachant que la Corée du Nord est un régime fermé.
Alors, Lamine, la personne la mieux désignée pour vous répondre, eh bien, c'est tout simplement l'un des auteurs de ce guide, cofondateur du petit futé. Bonjour, Dominique Ozias.
Oui, bonjour, madame. Bonne journée.
Pourquoi avoir donc décidé d'éditer un guide sur la Corée du Nord ?
Alors, effectivement, nous avons décidé d'éditer un guide sur la Corée du Nord parce que c'est un pays qui est fermé, mais qui fait un peu fantasmer pas mal de personnes et qui, on ne sait pas grand-chose, parce que c'est le royaume ermite qui est complètement isolé du reste du monde. Et il nous a semblé intéressant dans la collection des guides du Petit Futé, alors qu'il ne manque que 4 ou 5 destinations, de pouvoir terminer l'ensemble de la collection en couvrant ces pays-là. C'est une des premières raisons. Et la deuxième raison, c'est que même s'il y a très peu de Français ou de francophones qui se rendent en Corée du Nord, beaucoup de gens souhaitent connaître ce pays et savoir quelle est sa culture, quelles sont la gastronomie, quels sont les sites, les monuments, comment se fait la vie quotidienne dans ce pays. Et c'est comme ça que l'on a réalisé ce guide. Et pour répondre à votre cher auditeur sur la question qui se pose de savoir comment les auteurs ont pu écrire ce guide dans un pays qui est une dictature et qui est fermé.
Oui, c'est ça, le régime impose un tel contrôle et le pays est tellement fermé qu'on imagine que ça a dû être quand même difficile.
Oui, alors c'est une œuvre collective en quelque sorte. Il y a eu plusieurs auteurs qui ont travaillé dessus. Certains sont des journalistes correspondants du Petit Futé qui sont en poste en Chine ou en Russie ou en Extrême-Orient russe ou en Chine. Ce sont les deux moyens d'accès à la Corée du Nord. Ils y sont allés à titre de journalistes parce qu'ils ont une carte de journaliste. Et d'autres par contre, qui sont également journalistes, mais ils y sont allés en tant que touristes. Et ils ont échangé un peu leurs questions, ils ont échangé leurs interrogations, ils ont modéré un peu les réponses qu'ils obtenaient et ils ont associé à l'ensemble de toute cette information, des souvenirs et des reportages de voyageurs sur place qui ont raconté un peu l'expérience. Et tout ça, cette espèce de Big Mac d'information qui a été soigneusement modéré et hiérarchisé, permet de sortir ce guide aujourd'hui.
Dominique Ozias, vous restez avec nous. Je crois que Lamine avait une autre question. Lamine, vous êtes toujours en ligne ?
Oui. Est-ce que ce pays est sûr pour les touristes étrangers ?
Alors Dominique Ozias, cofondateur du Petit Futé, c'est vrai que c'est une question qui se pose. Vous le disiez, tous les lecteurs de ce livre ne vont pas forcément se rendre en Corée du Nord. Enfin, certains, oui. Est-ce que c'est sûr de voyager en Corée du Nord aujourd'hui ?
Oui, alors je peux tout à fait rassurer Amine, c'est excessivement sûr parce que comme on ne vous lâche pas d'une semaine et que vous avez toujours 3 ou 4 personnes autour de vous, il est bien évident que vous ne risquez pas d'être dévalisé ou d'être violenté en Corée du Nord. Toutefois, il faut savoir que ce n'est pas un pays d'une grande tranquillité et que si vous faites ou si vous êtes mêlé à un délit ou à une contravention, les peines seront beaucoup plus lourdes. Et c'est pour ça qu'il faut être très prudent et se tenir à carreau pour éviter d'avoir des choses incroyables. Souvenez-vous cet étudiant américain qui avait déplacé un portrait du leader suprême et qui s'était amusé avec lui, qui a fait 15 ans de tôle et puis qui en a ramené à moitié mort ou même pratiquement décédé en coma aux États-Unis après une intervention de Donald Trump.
Oui, et qui était décédé d'ailleurs des suites de ses blessures une semaine seulement après son retour aux États-Unis après avoir passé un an et demi en détention. C'est quand même un peu, c'est pas un très bon signal pour les touristes qui voudraient se rendre en Corée du Nord.
Non, mais je pense qu'il faut être, c'est un pays très sûr, mais il faut être très raisonnable et ne pas vouloir finalement faire de la provocation dans ce pays parce que les sanctions sont excessivement dures et rapides. Mais moi je voudrais revenir pour Amine et votre lecteur qui a l'air d'être un peu subjugué par le fait qu'on puisse éditer un guide sur la Corée du Nord. Il faut savoir que les guides du Petit Futé sont pour une partie édités pour des gens qui ne voyagent pas vraiment. Soit parce qu'ils sont des personnes âgées qui ne peuvent pas voyager, soit parce qu'ils sont handicapés, soit parce que le pays les fascine mais ne les intéresse pas pour faire un voyage. Et c'est comme ça, par exemple, qu'on a eu des très gros succès de librairie en éditant le guide de la Sibérie, parce que tout le monde dans son enfance, et moi le premier, j'avais appris à lire en lisant Michel Strogoff, ou l'Afghanistan, parce que j'étais fasciné par les cavaliers de Kessel, mais je ne suis pas le seul, il y a beaucoup de gens qui sont comme ça.
Et c'était et plus pour une source de connaissances que vraiment pour se rendre sur place. Merci beaucoup Dominique Ozias, cofondateur du Petit Futé.
Retrouvez Appel sur l'actualité après le journal avec Orange Monnaie, leader du transfert d'argent.